Le bourreau tue toujours deux fois, la seconde fois par l'oubli. Elie Wiesel. Salut, moi c'est Olen et vous écoutez l'émission Capsule. La technologie nous permet d'accomplir des miracles, alors je voyage dans le temps et l'espace à la rencontre des personnages qui ont marqué notre histoire. Je les interroge sur leur vie, leur époque et des sujets d'actualité. Ce soir, direction Uruk, vers 2650 avant notre ère. J'ai rendez-vous avec Gilgamesh pour parler de l'acculturation des peuples sauvages. Bonne écoute.
Ninsun, ma mère, cette nuit j'ai fait un rêve. Je marchais fier parmi les héros. Le ciel brillait d'étoiles, et une étoile comme un héros du ciel d'Anu est tombée vers moi. J'ai voulu la porter, mais elle était trop lourde. J'ai voulu la pousser, mais je n'ai pu la bouger. Autour d'elle, les gens du pays s'assemblaient et lui baisaient les pieds. Je l'ai aimée, et me suis penché sur elle, comme on se penche sur une femme. Je l'ai soulevée et déposée à tes pieds, et toi, tu l'as rendue égale à moi.
Gilgamesh, mon fils, cela représente Enkidu, un compagnon fidèle et plein de force qui te viendra en aide. Il est le plus fort dans le pays et d'une grande vigueur. Sa force et sa vigueur sont comme celles d'Anu. Que tu l'aies aimé, que tu te sois penché sur lui comme on se penche sur une femme, cela signifie qu'il sera toujours auprès de toi, qu'il ne t'abandonnera jamais. Voilà la signification de ton rêve.
Que ce rêve se réalise par la volonté du grand Enlil. Que j'ai un ami et un conseiller fidèle. Moi aussi, je lui serai ami et compagnon fidèle.
Gilgamesh, bonjour. Oh, pardon, je vous dérange, vous êtes en pleine méditation. Vous vous souvenez, aujourd'hui on devait rencontrer un prisonnier de guerre pour voir plus en détail comment vous colonisez les peuples barbares. Enfin, oui, si, c'est ça.
Oui, étranger. J'avais oublié. Viens, je t'emmène dans la maison des prisonniers. Tu pourras parler avec qui tu veux.
Ça va, vous êtes sûr? Vous avez l'air préoccupé.
Seigneur roi! Seigneur roi Gilgamesh! Je vous en prie, mon seigneur roi, écoutez-moi.
Qu'y a-t-il, chasseur? Ton visage est pâle comme celui qui a fait un lointain voyage.
Oui, mon seigneur roi, la peur est entrée dans mon cœur. Il est un homme étrange venu des collines. Il me prive de la chasse. Il est le plus fort dans le pays et d'une grande vigueur. Sa vigueur et sa force sont comme celles d'Anu. Il parcourt les plaines et les collines. Il broute l'herbe avec la harde. Avec elle, il s'abreuve au point d'eau. J'ai eu peur et je n'ai pas osé m'approcher de lui. Il a recouvert les trappes que j'ai creusées. Il a détruit les filets que j'ai tendus. Il a aidé les bêtes à s'échapper de mes mains. Gilgamesh, seigneur roi d'Uruk le mouton, il me prive de la chasse.
Wow, vous êtes attaqué? Si vous êtes attaqué, ça me va aussi. Je veux bien voir une guerre des états archaïques de près.
Non, Enkidu, déjà. Ma mère Ninsu m'avait prévenu que mon rêve signifiait l'arrivée d'un rival. C'est le rêve que j'ai fait, étranger. Il est le plus fort dans le pays et d'une grande vigueur. Sa force et sa vigueur sont comme celles d'Anu.
Vous inquiétez pas, monsieur le chasseur. Gilgamesh va convoquer l'assemblée des anciens et celle des jeunes, pour voir comment on peut vous aider. Ils vont se concerter et délibérer, mais ce sera rapide.
Va, chasseur. Emmène avec toi une Kalistu. Elle dominera cet homme. Elle saura l'apprivoiser. En la voyant, il sera attiré vers elle et deviendra son captif. Et alors, sa harde, qui a grandi avec lui dans la plaine, ne le reconnaîtra plus.
Merci, monseigneur roi.
Bon, du coup, vous avez pris une décision autocratique, là. Qu'est-ce que c'est, une Kadistu?
C'est une prostituée du temple. Une courtisane sacrée.
Vous êtes sérieux, là? Il a dit que c'était un homme étrange et dangereux. Vous n'allez pas envoyer une prostituée? Envoyez Birurtur. C'est bien votre officier royal et guerrier le plus valeureux.
Nah, tais-toi! Laisse-moi réfléchir. Ce n'est pas une prostituée des places publiques. C'est une prostituée du temple. C'est le rêve que j'ai fait. Il est le plus fort dans le pays, d'une grande vigueur. Sa force et sa vigueur sont comme celles d'Anu. Je crois qu'on m'a fait un homme bourbou. Je le savais. Les gens d'Uruk se lamentent. Je suis puni des dieux!
Namburbu? L'opération des exorcistes pour conjurer le mal? Ils se lamentent de quoi, les gens d'Uruk? Qu'est-ce que vous avez fait pour être punis des dieux?
Ah, je ne sais pas. Peut-être qu'ils se plaignent de la construction des remparts. Car pour la construction des bâtiments publics, la main-d'œuvre est recrutée parmi les citoyens. Oh, mais je ne comprends pas. On a fait une fête pour honorer les travailleurs. Ou peut-être qu'ils se plaignent des combats à la hache des jeunes hommes d'Uruk avec leur seigneur roi. Mais ce n'est qu'un jeu.
C'est grave. Qu'est-ce que vous risquez?
Ce n'est pas tout. Je me suis aussi accordé un droit de la première nuit.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que j'ai décidé que Gilgamesh s'accouplera avec la future épouse, lui d'abord, l'époux ensuite. Mais ils ne comprennent pas que les dieux l'ont voulu ainsi, qu'ils m'accordèrent ce destin dès que le cordon ombilical fut coupé. Et maintenant, les grands dieux d'en haut, les grands dieux du ciel, entendent leurs lamentations et leurs plaintes. Ils appellent la grande déesse. Comprends-tu ce que cela veut dire, étranger? Aruru ayant entendu ces paroles, conçoit en elle une image d'Anu. Elle lave ses mains, prend une poignée d'argile, la lance dans la plaine, et dans la plaine est créé Enkidu, le héros, substance de Ninurta.
Que représente Enkidu alors? C'est votre version maléfique? Quoique non, attendez, c'est vous qui êtes maléfique.
Tu n'as pas entendu ce chasseur? Enkidu représente les premiers âges. Il est né sans les cris de douleur d'une mère. Il est comme l'homme à l'état sauvage. Son corps est couvert de poils, sa chevelure est celle d'une femme. Les touffes de ses cheveux poussent comme des épis de blé. Il est vêtu comme le dieu Sumukan. Il ne connaît ni les hommes, ni les pays. Sa seule compagnie est l'animal. Avec les gazelles, il broute l'herbe. Avec les hardes, il s'abreuve au point d'eau. Auprès des sources, en compagnie des bêtes sauvages, son cœur se réjouit.
Il symbolise les peuples libres, alors? Enkidu est un amorite?
Oh, mon peuple, mon pauvre peuple! Les gens d'Uruk vont être terrifiés à l'arrivée de ce sauvage!
Vous allez rappeler cette pauvre femme alors, la prostituée du temple?
Non, Ninsun, ma mère, a dit que ce sauvage deviendrait un ami pour me conseiller. Il faut lui faire confiance. Rassure-toi, étranger. La femme est une initiatrice. La courtisane sacrée va apprendre à cet homme sauvage et innocent ce que la femme enseigne.
Comment ça? Qu'est-ce que la femme enseigne?
J'ai vu dans mes rêves ce qu'il va se passer. Comme Ishtar a soutiré son trésor à Enki, la courtisane va enlever ses vêtements pour dévoiler ses seins et sa nudité, pour que des charmes de son corps, Enkidu prenne toute sa jouissance.
C'est lui, courtisane. Enlève tes vêtements, dévoile ta nudité. Ne te dérobe pas, provoque en lui le désir. Dès qu'il te verra, vers toi, il sera attiré.
Durant 6 jours et 7 nuits, il faut qu'Enkidu sans cesse possède la courtisane.
Est-ce que c'est une métaphore du mariage? C'est bien connu, ça, que des tribus s'échangent des épouses, et le mariage est un moyen de consolider des relations durables. Je veux dire, vous civilisez les peuples barbares par la fonction du mariage? Alexis de Tocqueville, expert en colonisation de l'Algérie, le remarquait déjà. Pour qu'un peuple puissant et civilisé comme le nôtre, disait-il, exerce par le seul fait de la supériorité de ses lumières une influence presque invincible sur de petites peuplades à peu près barbares, et que, pour forcer celles-ci à s'incorporer à lui, il lui suffit de pouvoir établir des rapports durables avec elles.
Non, non, le mariage n'a rien à voir. Pour nous, l'amour libre des prostituées est le seul à représenter le véritable amour, en sa pureté et sa noblesse. Alors que, dans le mariage, la femme doit seulement enfanter et obéir à son époux. Il faut que la courtisane provoque en lui le désir. La première chose qui frappe le sauvage, ce n'est pas la raison, c'est la force. Le corps de l'homme sauvage est plus fort et plus vigoureux que le nôtre. mais son esprit est dominé par la violence et l'orgueil. Il ne connaît pas la joie de vivre. Lorsqu'il sera rassasié de ses charmes, il lèvera son regard vers ses compagnons. Mais en le voyant, les gazelles se détourneront de lui et les bêtes sauvages le fuiront. Enkidu sera alors sans force. Ses genoux le trahiront lorsqu'il voudra suivre sa harde. Affaibli, il ne pourra plus courir comme autrefois. Mais son cœur et son esprit seront épanouis. Tu comprends ? S'il possède la courtisane et s'attache à elle, la harde qui a grandi avec lui dans la plaine ne le reconnaîtra plus, parce qu'il possédera désormais la sagesse. Ensuite, la courtisane va faire son apprentissage. Elle déchira son vêtement pour le couvrir. Elle lui donnera l'huile pour qu'il frotte son corps velu. Lavé, le voilà comme un homme. Et vêtu, le voilà un époux. Déjà, Enkidu n'est plus une bête sauvage. Il est semblable aux gens d'Uruk. Les chasseurs vont l'adopter pour qu'il devienne leur gardien et leur protecteur pendant plusieurs jours. Mais son esprit, lui, est encore barbare. Il a grandi en têtant le lait des bêtes sauvages. Il ne connaît pas le pain comme nourriture. Il ne connaît pas la boisson forte. Alors la courtisane lui donnera à manger et à boire. Car le pain est l'élément de la vie. Et la boisson forte est la coutume des gens du pays. Et lui, ne connaissant rien, il est plein d'embarras. Longtemps, il regarde.
Vous vous souvenez de ce que j'ai dit la dernière fois ? Que la colonisation s'obtient de deux façons, par la culture du sol en friche et par l'initiation de ses habitants au progrès d'une civilisation basée sur la morale. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous colonisez les peuples libres à travers Enkidu. Regardez-vous, c'est la civilisation qui marche sur la barbarie. C'est un peuple éclairé qui va trouver un peuple dans la nuit. Vous êtes, 2200 ans plus tôt, les Grecs du monde. Vous considérez que c'est à vous d'illuminer la terre.
Chut, étranger. Maintenant il goûte. Quand il sera rassasié et qu'il aura bu 7 fois, son esprit sera libéré, sa poitrine élargie, son cœur enchanté et son visage illuminé. Sa transformation sera achevée. Maintenant il est prêt. Une fois qu'il a connu les plaisirs et les joies de la vie, et qu'il y a pris goût, Enkidu a oublié même le lieu de sa naissance. Il ne peut plus que suivre son initiatrice. Elle le prend par la main, comme une mère guidant son jeune enfant. Elle l'emmène vers Uruk au rempart, où les gens sont vêtus de beaux vêtements, où chaque jour on célèbre des fêtes, où les filles sont belles et odorantes, et font lever les grands de leur lit. Et là, il rencontrera Gilgamesh, plein de vie. Il verra que son visage est éclatant de virilité et de vigueur. Il verra que son corps resplendit de charme et de séduction.
Je te regarde, Enkidu. Tu possèdes maintenant la sagesse. Tu es pareil à un dieu. Pourquoi parcours-tu la plaine avec l'animal ? Abandonne ta violence et ton orgueil. Viens, je vais te conduire dans Uruk au vaste marché. Au temple sacré, demeure d'Anu et d'Ishtar. Lève-toi, Enkidu. Je vais t'emmener à Leana, où vit Gilgamesh à la force incomparable. Là-bas, comme un taureau sauvage, il règne sur les gens. Tu l'aimeras comme un autre toi-même.
Oui. Abandonne ta violence et ton orgueil, Enkidu, car le dieu Shamash aime Gilgamesh et le protège.
Il y a autre chose, Enkidu, que je ne t'ai pas dit. C'est Gilgamesh. Il a forcé la demeure nuptiale consacrée aux hommes et aux noces. Il a souillé la cité et lui a imposé les corvées. Pour Gilgamesh, le roi d'Uruk, on a préparé le tambour. Et qu'à son rythme, il choisisse avant son époux, l'épouse désirée et la féconde en premier.
Viens, courtisane. Maintenant, suis-moi jusqu'au temple sacré. Demeure d'Anu et d'Ishtar, où vit Gilgamesh à la force incomparable et où, comme taureau sauvage, il règne sur les gens. Je vais le défier. Je vais le provoquer. Je veux crier, Jean d'Uruk. C'est moi le plus fort. Oui, c'est moi qui vais changer destin. Celui qui est né dans la plaine est plus fort, plus vigoureux.
C'était prévu, ça?
Ah, cette traîtresse, femme perfide, comment elle pue! Maintenant, c'est lui qui marche devant elle! Par la force d'Anu et d'Ishtar, je jure que plus jamais je ne ferai confiance à la femme! Suis-moi, étranger! Nous allons attendre le sauvage Enkidu sur la place du marché. Je dois me montrer à mon peuple pour le rassurer. Les pauvres gens d'Uruk doivent être terrifiés.
Hourra! Hourra! Il est maintenant un pareil et un rival semblable à notre héros Gilgamesh!
Hourra! Hourra! Pareil à Gilgamesh, il est bâti, mais plus petit de taille et plus fort d'ossature. Il est le plus fort de la plaine. Il est d'une grande vigueur. Il a grandi en têtant le lait des bêtes sauvages dans le désert. Victoire! Victoire!
Votre peuple n'a pas l'air terrifié, finalement. Regardez là-bas, c'est Enkidu. Il est un peu plus petit que vous, mais il a l'air robuste. Il est moitié domestiqué, mais il n'a pas perdu de sa vigueur.
C'est toi, Gilgamesh! Celui qui dit être berger d'Uruk le mouton, guide du peuple grouillant! Celui qui souille cité et lui impose corvée! Tu n'es pas un roi! Un roi n'est pas mauvais envers peuple! Il ne profite pas de son pouvoir pour propre avantage! Il ne prend pas place des dieux! Tu as maintenant un rival qui t'est par le souffle et par la force comparable. Viens, prends ta hache et montre-moi le jeu que tu imposes aux jeunes hommes d'Uruk.
Vous n'êtes pas obligé de répondre à ces...
Tu viens à Uruk pour me défier, homme sauvage. Saisis ta hache, et voyons si tu es aussi fort que tu le dis.
Ils vont se battre longtemps, vous croyez?
Je le crains. Maintenant, dans Uruk, le bruit des armes ne cessera pas.
Vous soutenez qui, vous? Allez, Enkidu!
Je reconnais ta force, Gilgamesh! Tu es homme unique parmi hommes. Tu es vraiment le fils de ta mère, la déesse Ninsun. Vache sauvage. Elle t'a mis au monde et le dieu Enlil a élevé ta tête au-dessus des hommes. C'est ainsi qu'il t'a destiné à la royauté. Maintenant que j'ai reconnu ta puissance, Gilgamesh, laisse-moi être ton ami et ton conseiller. Je te serai fidèle.
Mon ami, pourquoi tes yeux sont-ils noyés de larmes et ton cœur plein de chagrin? Pourquoi pousses-tu des soupirs et des gémissements?
Mon ami, je sens les sanglots m'étrangler. Mes bras pendent sans force et ma vigueur est devenue faiblesse.
Viens, allons dans mon palais. Tu seras désormais mon ami et mon conseiller. Dans le lit somptueux de la gloire, je vais te coucher. Et sur le siège de repos à ma gauche, tu seras assis pour que les princes de la terre viennent et baissent tes pieds.
Ça va, Enkidu ?
Enkidu, mon ami, voici l'étranger dont je t'ai parlé et qui pose beaucoup de questions.
Pourquoi vous me regardez comme ça, Enkidu ?
Je t'ai entendu tout à l'heure, étranger, pendant le combat. Tu as dit « Allez, Enkidu ».
Moi ? Pas du tout.
N'est pas important maintenant. Ishtar a recueilli Enkidu dans son giron et ma mère Ninsun l'a adopté. Tu vois, c'est aussi ça, Uruk. Maintenant, Enkidu est mon ami. Il est comme un autre moi-même.
Alors ça y est, vous êtes amis. Enkidu est pleinement assimilé.
Ishtar se réjouit. Désormais, elle est certaine que nous réussirons à nous deux, là où un seul échouerait. Car l'amitié multiplie les forces, et deux jeunes lions sont plus forts que leur père.
Enkidu fait désormais partie de la famille, alors. C'est une bonne nouvelle. Vous allez pouvoir accomplir de grandes choses, mener plein d'aventures, et contribuer ensemble à la prospérité de l'État, en continuant à ramener des peuples libres et sans loi dans le giron de Léana, par exemple. N'est-ce pas, Enkidu ? Et pour ce qui est de votre rapport à l'amitié, les pythagoriciens décrivent l'amitié de la même façon que vous, en disant qu'un ami, c'est un autre moi-même. Mais les pythagoriciens ne parlent pas du cas spécifique d'une amitié forcée par l'acculturation. Pour eux, il y a plusieurs sensations dans le rapport aux autres et qui sont voisines. D'abord, il y a la fraternité, que je ressens pour l'ensemble des hommes. Ils sont une amitié possible, presque acquise, mais dont il faut que nous fassions la preuve qu'elle peut être. Après, il y a la famille, avec qui nous sommes liés par un rapport de confiance dès la naissance. C'est presque une donnée naturelle tant ils me sont nécessaires. Entre le possible et le nécessaire, il y a l'amitié. C'est la famille qu'il m'est donné de choisir et que je place dans un rapport de confiance mérité. Pour eux, l'amitié est égalité, car ce qui est inégal ne peut pas faire partie de l'amitié. Entre amis, tout est commun. C'est pour cela que les pythagoriciens, comme nous l'a expliqué Théano, mettaient tous leurs biens en commun. Et enfin, au plus haut, il y a l'amour, qui relie en quelque sorte tous ces autres sentiments. Alors vous voyez, vous avez passé 3 des étapes sur 4. Alors maintenant, qui sait ? Peut-être bien que vous allez tomber amoureux tous les deux. Bon, ben je vais vous laisser. L'émission est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça nourrit votre réflexion. La semaine prochaine, nous retrouverons Gilgamesh et son nouvel ami pour voir comment l'émergence de l'État a bouleversé le rapport à la nature. Je vous mets des sources et des ressources en description si vous voulez aller plus loin. Un grand merci à tous ceux qui m'aident à réaliser ces capsules d'éducation populaire en contribuant sur Tipeee, mais aussi les comédiennes et comédiens qui donnent vie aux personnages. Sarah Pereira, dans le rôle de Ninsun, Cédric Allard, dans le rôle du chasseur, Amandine Blancard, dans le rôle de la courtisane, Benjamin R, Laurent Pasquier et Juliette Père dans le rôle des villageois, Hugues Louagy dans le rôle d'Enkidu, Hippolyte Audouy dans le rôle de Gilgamesh, à la technique Simon Moulin et Pierre-François du studio Audiovisite. Aussi, n'hésitez pas à mettre une note à cette capsule, de préférence 5 étoiles, à commenter et partager, ça m'aide beaucoup à continuer et gagner en visibilité. Quant à moi, je continue mon voyage dans l'espace-temps et je reviens au plus vite avec de nouvelles histoires à raconter.